Bien. Bien, avec votre permission, on va débuter ce temps fort exceptionnel en compagnie de notre ami Cédric Villani, qui va avec vous faire, à travers une discussion, ce que j'appelle moi la causerie. C'est-à-dire, je lui ai dit, pas de conférence, celle de 20h30 sera bien suffisante. Mais par contre, je pense qu'on goûte tous ensemble ce moment exceptionnel d'être avec lui. Pour le côtoyer depuis un peu plus d'un an maintenant, je sais qu'il est ouvert à toutes questions, même les plus incongrues et les plus invraisemblables. Donc n'hésitez pas. Je pense que après le travail qu'il vient de faire, je ne sais pas si vous avez suivi sur France Info, le travail qu'il a fait en compagnie d'une amie de l'Espace Mendès France qui s'appelle Marie-Odile Monchicourt, les mathématiques sont en train, et ça c'est clair, sont en train de réentrer dans la vie sociale. Juste une chose avant de laisser la parole à mon ami Dominique Gault, avec qui on travaille ici depuis très longtemps. Il est à peu près invraisemblable de penser, il y a encore une dizaine d'années, qu'un mathématicien soit interviewé par la presse locale. Ce matin, Cédric Villani avait une interview. Le magazine de Poitiers a fait une interview. 7 à Poitiers a fait une interview. C'est passé sur diverses radios locales. C'est impensable parce que les mathématiques sont tellement repoussoires, alors qu'en fait, elles sont tellement... attrayante et attirante de mon point de vue, que en fait ces mathématiques n'étaient jamais dans nos médias locaux. Donc je pense que c'est une petite victoire et il faut en profiter. Ce soir, profiter du dialogue avec lui. Cédric est à votre disposition pour tout et son contraire. Dominique Gault, professeur au lycée Pilote Innovant, sans qui tout ça n'aurait pas pu avoir lieu. Un petit mot et puis après la parole sera à vous. Merci en tout cas.
C'est bon ? Oui, je voudrais. Bon, d'abord, je vais pas vous faire une présentation de Cédric Villani. Bon, par toutes vos questions, vous saurez qui il est, comment il vit, tout. Enfin, tout ce que vous voulez savoir sur lui. Il a été mis sous le feu des projecteurs, alors qu'en fait, c'est un brillant mathématicien avant. Mais il a fallu qu'il ait la médaille Fields. Donc, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais vous poserez les questions pour qu'il soit mis sous le feu des projecteurs. Les projecteurs, à peine refroidis, il sortait ce magnifique ouvrage, Théorème vivant. Alors, il y a des pages, effectivement, qui sont un peu obscures. Mais l'histoire est passionnante et c'est son journal de la découverte du théorème de Villani. Bon, je ne sais pas s'il est encore appelé comme ça ou s'il est déjà appelé comme ça.
De Mou Villani.
Hein?
Mou Villani, c'est un théorème. C'est un travail à deux ici.
Alors donc, quand on a organisé ça avec l'Espace Mendès France, on n'avait nous qu'un objectif, c'est d'abord vous le faire rencontrer. Et surtout, j'espère que vous avez des vocations scientifiques, et j'espère que cela va conforter votre vocation et que ça va même vous booster pour faire des études scientifiques, que ce soit de mathématiques, de physique, car comme vous allez le voir, M. Villani ne s'intéresse pas qu'à la mathématique pure, mais aussi à tous les domaines qui touchent les mathématiques, que ce soit de la physique ou la biologie, puisque moi j'avais assisté à une conférence sur la mathématique de la chauve-souris. Et oui, il y en a. Hein, pauvre chauve-souris, elle ne le sait pas. Donc je vous laisse la parole. Alors je vous demanderai simplement de donner votre prénom, parce que je trouve que c'est plus sympathique, et de poser vos questions. Alors le plus difficile, vous le savez, c'est de commencer. Alors qui se lance ? Walter, tu as le micro ?
J'ai le micro.
Allez, le micro, le premier. Allez, le premier ou la première. Normalement, vous avez été briefé, vous avez dû préparer quelques questions, alors il faut se lancer. Alors allez-y. Ah bah oui.
Bonjour, je m'appelle Hamza. Donc une question, comment on peut être amené à être motivé à résoudre pendant des mois et des mois des problèmes ? Enfin, les ingrédients pour être motivé.
Les ingrédients pour être motivé. Alors ça, c'est une question qui est bien plus générale que mathématique. Il y a des gens dont le but, c'est de se faire élire président de la République et qui y passent 20 ans de leur vie. Il y a des gens dont le but, c'est de construire un bâtiment et qui passent plusieurs décennies aussi. Il y a des gens dont le but, c'est de gagner 2/10 à leur temps de course et qui passent des années. Alors, je dirais, c'est une question plus générale que mathématique. C'est juste chercher à faire quelque chose par quoi on se dépasse, qu'on sent qu'on est capable d'arriver à faire, ou du moins qu'on croit qu'on est capable d'arriver à faire, et pour quelque chose qui a une résonance importante en nous. Comment on arrive à le faire ? D'abord, il faut ressentir de la curiosité. Il faut qu'il y ait une démarche novatrice derrière, en tout cas arriver à quelque chose de nouveau, quelque chose qui représente un changement par rapport à ce qu'on a fait, un changement de quelque chose, un élément de découverte, d'inconnu pour nous. Il faut que ce soit typiquement, il faut que ce soit quelque chose de bien reconnu socialement, ou en tout cas qu'on évolue dans un milieu où c'est quelque chose de valorisé. Bon, après, voilà, c'est une question qu'on peut poser à beaucoup de gens qui sont dans la salle. Hein, on peut demander poser la question à ceux qui ont animé cet espace et qui ont passé des années à le mettre en place. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait.
Suivant. Allez-y, écoutez.
Après, en tout cas, une fois que vous êtes lancé, que vous êtes motivé et que vous êtes persuadé que le truc en vaut la peine, tout est possible. Je veux dire, vous allez pouvoir rentrer dans une spécialisation considérable, un luxe de détails considérable, aller chercher des plans faisant intervenir des personnes à une bande, deux bandes, trois bandes, quatre bandes et ainsi de suite. Une fois que vous avez le truc en tête, pouf. Ouais.
Bonjour. Alors moi, je m'appelle Baptiste et je me demandais, dans les maths, est-ce que vous avez un domaine de prédilection à l'intérieur des maths ?
Oui, tous les mathématiciens de nos jours ont leur domaine à l'intérieur des mathématiques. On n'imagine pas un mathématicien couvrant tout le spectre. C'était le dernier qui a fait ça, on dit, c'est Henri Poincaré qui est mort il y a plus de 100 ans. Actuellement, aucun mathématicien dans le monde ne maîtrise l'ensemble. Il est raisonnable pour un chercheur d'espérer bien maîtriser, disons 2-3% du champ mathématique et comprendre 30%. Certains peuvent aller au-delà, mais ce sont vraiment des cas exceptionnels. Peut-être le gars qui a le spectre plus large actuellement dans le monde mathématique, c'était Ritao, le jeune prodige australo-américain. Et lui, justement, il a fait des contributions dans une bonne partie des domaines, mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus restreint. Il faut distinguer le domaine qu'on maîtrise du domaine qu'on comprend. Et le second est beaucoup plus large. Moi, je suis un analyste spécialisé dans des questions d'équations dérivées partielles, physique, mathématique, géométrie différentielle. Voilà. Au sein de l'analyse, une branche qui s'occupe d'équations qui régissent les phénomènes physiques. Dans ces équations, j'en connais quelques-unes, quelques paradigmes que je maîtrise bien.
Moi, je m'appelle Arthur. Donc, quelles études avez-vous fait pour devenir mathématicien ? Comment avez-vous étudié ? Quel est votre parcours ?
Mon parcours est un parcours plutôt classique de chercheur mathématicien, classe préparatoire, grande école, et en l'occurrence l'école normale supérieure. C'est aussi par là que sont passées quasiment toutes les médailles Fields françaises, qui sont très nombreuses. Et il y a pas de parcours unique, bien sûr. Il y a des gens qui viennent de différentes grandes écoles, il y a des gens qui viennent de l'université, il y a des gens qui viennent de l'étranger, qui ont fait une partie de leurs études en France. On a droit à toutes sortes de parcours. En tout cas, la voie, je ne vais pas dire standard, mais la plus classique parmi les chercheurs, en tout cas sur des domaines un peu théoriques, mathématiques, c'est celle que je viens de dire, École normale supérieure, l'une des écoles normales supérieures françaises. Il y en a une à Paris, il y en a une à Lyon, il y en a une à Cachan.
Allez-y, qui a une question quoi ? Oui ?
Bonjour, je m'appelle Eurydice. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la concurrence entre les mathématiciens ?
Oui, bien sûr. Et la concurrence, c'est comme tout. On peut appeler ça de l'émulation, si on veut prendre un terme positif. C'est la faculté à vouloir se dépasser par l'exemple des autres. Et c'est un sentiment qui est à la fois un côté une question de challenge et une question de, d'inquiétude éventuellement. C'est comme quand vous faites du sport, il y a de la compétition entre les sportifs ou à peu près n'importe quelle activité humaine dans laquelle le but est de se dépasser. Et la compétition, quand les choses sont bien organisées, va toujours de pair avec la coopération. Parce que les compétiteurs ont besoin de s'entraîner, parce que les compétiteurs ont aussi besoin de regrouper leurs forces pour résoudre certains problèmes que vous ne pourriez pas résoudre tout seul.
Oui, derrière.
Bonjour, je m'appelle Auguste. Est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration particulières qui vous ont mené à votre but, des mentors ou certaines personnes qui vous ont aidé dans cette recherche que vous avez menée?
Oui, il y a deux questions différentes dans votre question. Il y a la question des sources d'inspiration et la question des mentors, qui peuvent être les deux, mais pas forcément. Du côté des sources d'inspiration, vous pouvez être inspiré par des étoiles inaccessibles. Je ne sais pas, moi, par exemple, une actrice pourrait avoir pour modèle Audrey Hepburn, ce genre de choses. Évidemment, elle ne va jamais être coachée par Audrey Hepburn, mais ça représentera un modèle et une source d'inspiration. Dans mon cas, quand j'étais gamin, et c'est important, je lisais dans des bouquins de vulgarisation, comme on trouve un peu partout, on vous raconte la vie de Gauss ou des choses comme ça, des choses qui vous font rêver par leur caractère incroyable. Le héros qui va personnifier à la fois la puissance de l'esprit humain et puis la faculté de résoudre des problèmes difficiles, des histoires extraordinaires, de la même façon qu'un politique pourra rêver en entendant parler de Napoléon ou plus récemment d'une figure avec un rôle moral important comme Mendès France. Et donc, ça, vous avez la question des icônes, des beautiful minds, comme on peut dire. Dans mon cas, parmi mes héros, on va mettre, par exemple, quelqu'un comme John Nash, qui représente, dans sa façon d'aborder les problèmes, avec son esprit analytique et sa façon d'utiliser l'analyse en déclinaison pour toutes sortes d'applications, des équations aux dérivées partielles dans un contexte géométrique, et puis sa faculté de lancer toutes ses forces intellectuelles sur un problème de manière extrêmement précise. Ce sont des choses qu'on apprécie beaucoup quand on est analyste, en tout cas que moi j'apprécie beaucoup. C'est une façon, un style assez différent de celui que pourraient avoir d'autres personnes cherchant à avoir une vision globale, à résoudre les problèmes d'une manière douce et non pas par une attaque frontale et pointue. Donc John Nash aussi, par son inventivité, représente une sorte de héros, une sorte de paradigme, d'étoile, même si je n'ai jamais interagi avec lui. Je l'ai rencontré quand il avait... quel âge il avait quand j'ai rencontré? 85 ans. Pas tout à fait, 82 ans. Donc, il y a une question importante là, qui sont les modèles, un peu les stars inspirantes. Et puis, il y a une autre question, qui sont les mentors, qui peuvent aussi jouer un rôle inspirant, mais qui sont plus proches, qui vous mettent le pied à l'étrier et qui vous donnent des conseils. Pour moi, j'en distingue 5, ce qui est 4, ce qui est inhabituellement élevé. D'habitude, vous allez en avoir un ou deux. Il y a eu mon patron de thèse, Pierre Lulions, médaille fils lui-même en 1994. Il y a eu mon tuteur à l'école normale supérieure, un enseignant qui s'occupait plus particulièrement de me guider, de me diriger. Il s'appelait Yann Brenier. Il y a eu un Américain, un analyste spécialiste de certaines inégalités de physique mathématique qui s'appelait Eric Carlen, et puis un probabiliste toulousain qui s'appelle Michel Ledoux. Je considère ces quatre-là comme mes quatre mentors mathématiques. Et on retrouve leurs influences dans ma thèse en particulier, dans ce travail de recherche, le premier travail de recherche que j'ai accompli, dans lequel j'avais à résoudre des problèmes nouveaux, et on les retrouve dans mon style. Avec des éclairages complémentaires. Avec Lyons, on avait un goût pour les problèmes très difficiles et réalistes, avec des méthodes très dures. Avec Brenier, au contraire, c'était un goût pour les méthodes molles, douces, générales, pour résoudre des problèmes très simplifiés. Avec Carlen et Ledoux, dans des styles un peu différents, il y avait un goût, en revanche, pour les inégalités, et puis des choses tombant extrêmement bien, un mariage entre géométrie, physique... et analyse, avec Ledoux plutôt du côté probabiliste et du côté géométrique, Carlène plutôt du côté physique. Donc ces quatre-là, ils avaient des styles assez complémentaires qui m'ont influencé tous les quatre. J'avais un petit côté éponge.
Allez, il faut vous lancer.
Tant pis. Sinon, je le donne au hasard.
Ouais, là, il y a un petit jeune.
Non, c'est vraiment très jeune. Je m'appelle Hassan Tarfaoui, donc je suis professeur de maths par rapport aux jeunes. J'ai juste une question, c'est que l'école française des mathématiques, c'est l'une des meilleures au monde, mais en revanche, elle a du mal à percer aux Olympiades internationales. Donc, comment analysez-vous ce paradoxe?
Oui, plusieurs interprétations possibles. D'abord les performances au niveau du lycée globalement en France sont pas si bonnes que ça. Plusieurs interprétations possibles là aussi. Mon idée dans l'ensemble, c'est que ça reflète plus des problèmes de l'éducation nationale en général que quelque chose de spécifique à la mathématique, qui a tout un ensemble de lourdeurs, de facteurs qui découragent la prise d'initiative individuelle, qui rend plus difficile la possibilité pour des enseignants d'exprimer leur motivation, d'exprimer la façon de transmettre leur motivation pour des jeunes. Dans une interview récente, un peu iconoclaste, un peu provocatrice, Micha Gromov estimait que c'était le gros problème de la France que d'arriver à donner du grain à moudre à ceux de ses étudiants qui étaient les plus motivés ou les plus doués. Évidemment, on arrive tout de suite sur des questions délicates, qu'est-ce que ça veut dire un étudiant doué, des choses comme cela. Mais je pense qu'il y a une lourdeur d'ensemble de l'éducation nationale qui rend ça très difficile, avec tout l'écosystème que je pourrais passer longtemps à critiquer, qui n'est pas la faute des acteurs eux-mêmes, mais de la façon dont ça a été mis en place sur les rapports hiérarchiques, les inspections, le rapport au programme et des choses comme ça. Donc là, il y a peut-être un élément qui est délicat. La France a connu une lourde réforme dont nous subissons toujours les conséquences dans le temps, la réforme dite des maths modernes, qui a suscité une certaine douleur et pas mal d'incompréhension. Les traces ne sont pas encore effacées. Hein. On continue à être là-dedans, en particulier dans le discours environnant, discours des parents, discours de certains enseignants. Il y a eu un traumatisme qui n'est pas vraiment effacé. Il y a des soucis au niveau des programmes. Hein. Là, je vais sans doute jouer un peu au vieux schnock, mais les programmes actuellement au lycée ne sont pas les mêmes que ceux que j'avais moi, et ceux que j'avais moi n'étaient pas les mêmes que ceux qu'avaient mes parents. Il y a quelque chose de très délicat là derrière et une problématique qu'on a vu que les enseignants, que ce soit à l'école normale supérieure, dans les classes préparatoires qu'on connaît, ont vu avec pour diverses raisons, un système qui entraîne moins bien que ce qu'il a pu et qui entraîne moins bien que dans d'autres pays. Ceci est une possibilité. Il y a des pays, d'autre part, dans lesquels il y a une vraie culture d'Olympiade qui s'est transmise traditionnellement. Je ne sais pas quelle est la situation actuellement, mais dans les pays d'Europe de l'Est, traditionnellement, il y avait de très fortes cultures olympiades, avec un système qui entraînait les enfants dès le jeune âge, voire certaines classes extrêmement compétitives dans lesquelles ça se faisait. Et tout un système qui portait les choses... Un de mes collègues hongrois me parlait des exercices d'Olympiade hongroise qui étaient retransmises à la télévision à des heures de grande écoute. L'ensemble du système était fait pour. Et puis, il y avait des classes spécialisées avec deux fois plus d'horaires de mathématiques que les autres. C'était des choses qu'on a du mal à imaginer. Dans des conditions comme ça, je pense qu'il y a des réflexes et des entraînements plus forts qui se sont maintenus dans certains pays. Bon, et puis en France, pour parler du paradoxe que vous décrivez, le rôle des classes préparatoires est assez considérable dans les performances au niveau de la recherche. Hein. Ce n'est pas un hasard si 10 des 11 médailles FIS françaises sont passées par le système classe préparatoire école normale supérieure. Et le rôle des classes préparatoires, assez intéressant, il a quoi d'intéressant? D'abord, c'est une voie qui convient à certains et pas à d'autres. Il n'y a aucune nuance
morale derrière. Je veux dire, il n'y a rien de dramatique à ne pas être fait pour les classes préparatoires. L'un des quatre mentors que je citais n'était pas fait pour les classes préparatoires et a fait toute sa carrière dans le monde universitaire. Mais quand on regarde globalement, on voit beaucoup de gens qui sont passés par les classes préparatoires. Ça survient à un âge très particulier, hein, quand on a genre 17-18 ans, où on est prêt à se concentrer et à se focaliser pendant 2 ans sur un problème. Ça serait impensable à l'époque où on est adolescent. Et puis ça serait impensable quelques années plus tard parce qu'on a envie de faire autre chose. Mais il y a cette fenêtre dans laquelle les jeunes sont prêts à s'investir. Et pour moi, c'était très bien. Pour beaucoup d'autres que je connais, c'était très bien. Et ça participe beaucoup à ces bonnes performances de l'école mathématique française. Mais si je ne dis pas de bêtises, pour les Olympiades, c'est trop tard, n'est-ce pas? Les Olympiades, ça correspondrait plutôt à nos élèves de terminale. Et voilà. Et donc, il n'y a pas eu cette case classe préparatoire. Je pense que ça fait beaucoup dans la solution du paradoxe que vous mentionnez.
Bonjour, je m'appelle Célia. Alors, est-ce que vous avez été baignée dans le milieu des mathématiques assez tôt ou alors c'est venu qu'après votre vocation ?
Alors, oui et non, au sens où d'abord, je ne suis pas d'une famille de mathématiciens. J'ai un oncle prof de maths et c'est tout. Mes parents étaient profs de lettres. Moi, c'était beaucoup plus des lettres à la maison. Je ne suis pas dans une tradition familiale mathématique comme sont un certain nombre de personnes. Et comme on voit d'ailleurs souvent dans les grandes écoles, un certain nombre des fils et filles de collègues. D'un autre côté, à la maison, il y avait ce qu'il fallait pour m'occuper mathématiquement parlant. Il y avait des bouquins ici, des bouquins là, je regardais ça. Ça m'occupait, je trouvais ça intéressant. Bon, de ce point de vue-là, je baignais un peu. Je peux citer un... Alors, ça dépend de ce qu'on appelle tôt aussi. En tout cas, je peux citer, quand j'étais gamin, un dessin animé un peu à la noix de Walt Disney, dans lequel on voit les mathématiques qui baignent le monde. C'est le genre de truc qui peut marquer un gamin. Je peux citer un bouquin qui m'apprenait, qui me parlait de la vie de certains mathématiciens et qui parlait de nombre d'or et de machin comme ça. Je peux citer un bouquin de géométrie du triangle que j'ai lu et relu quand j'étais au lycée. Il y a ce genre de choses. Et puis après, je n'ai pas vraiment fait de calcul ou de choix en me retrouvant dans une carrière mathématique. C'est venu tout seul, juste en suivant le flow. Après, j'ai fait un vrai choix quand il a fallu choisir entre analyse ou géométrie ou algèbre ou probabilité. Et là, il y a un moment quand il faut choisir une spécialisation où vous êtes obligé de faire une sélection. Vous êtes élève de quelle classe, vous ? Première ? Première et terminale ? Ok. Alors, par exemple, un bouquin de sortez et sortez, ça dit quelque chose à l'un d'entre vous ?
Non, ça se fait plus. Non. Même aux enseignants,
Ah oui, d'accord. Donc je disais ça quand j'étais au lycée, c'était que de la géométrie du triangle, c'était élémentaire, il y avait des droites qui se rencontraient, j'étais là, waouh, les droites elles se rencontrent, oui. C'est super. Comment on va démontrer ça ? La géométrie du triangle, qu'est-ce que ça a de beau ? Ça a de beau que c'est un laboratoire, et c'est ça qui est bien en mathématiques, ça c'est un truc que les gens souvent ne comprennent pas. Je pense que la mathématique, c'est lointain parce que c'est abstrait, mais la mathématique, c'est très proche parce que vous pouvez vous l'approprier. C'est un truc, là, vous pouvez tracer les lignes et faire ça sur votre carnet, même sans rien savoir, quoi. Vous pouvez chercher tout ça, et pas besoin d'observation microscopique, pas besoin de regarder des atlas, besoin de rien, papier, crayon et tout, et puis vous comparez le raisonnement. Donc, en un sens, c'est quelque chose qui est extrêmement proche. Vous l'emportez avec vous dans votre lit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Et ça reproduit en petit toutes les questions du raisonnement, démarche scientifique en petit, sur un modèle réduit. Je me dis, triangle, c'est des droites, des triangles, des cercles. C'est d'une simplicité, mais à crever, quoi. Et tout ce qui nous entoure, c'est incomparablement plus compliqué. C'est le monde qui nous entoure, une complexité phénoménale. Et à côté, les machins, c'est vraiment extrêmement simple. Alors, sur ce laboratoire super simple, on va apprendre la démarche scientifique. On va apprendre qu'il n'y a pas de miracle et que quand on voit quelque chose qui a l'air miraculeux, genre des droites qui se rencontrent, eh bien, il y a une explication. Et on va chercher l'explication. Et on va passer du temps à transpirer jusqu'à ce qu'on trouve l'explication. C'est ça qui est bien dans la géométrie du triangle.
Bonjour, je m'appelle Louis. Donc ma question rejoint un petit peu celle de Célia, mais je vous la posais quand même. Qu'est-ce qui vous a amené à consacrer votre vie aux mathématiques? Qu'est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou pas?
Qu'est-ce que vous appelez consacrer ma vie aux mathématiques?
Bah, consacrer votre vie, vous travaillez dessus quasiment toute l'année, donc pour moi c'est consacrer votre vie.
Alors on peut aussi bien dire que ici votre enseignant il a consacré sa vie au métier d'enseignant et ainsi de suite. Ça dépend ce que vous appelez consacrer votre vie.
Faire de la recherche.
Je veux dire, je suis aussi père de deux enfants, président d'une association sur le créneau musical et culturel, vice-président d'un think tank politique. Consacrer sa vie, ça dépend par quel bout on le prend. En tout cas, mon métier, c'est d'être universitaire. Je suis aussi directeur d'institut. Mon métier, c'est d'être universitaire. Mon métier, à la base, c'est d'être enseignant-chercheur. Je dis bien enseignant-chercheur. J'ai jamais occupé de fonction de recherche à temps plein. J'ai toujours été chercheur et enseignant. Et en tout cas, on a cette vision, je crois, dans la société actuelle, qu'un jour, on choisit un métier et on va s'y consacrer. Alors, la France, c'est le pays dans lequel les gens mettent le plus d'attente dans leur métier professionnel pour se réaliser, dans leur fonction professionnelle. Alors que dans d'autres pays, on va accorder beaucoup plus d'importance à se réaliser à travers des activités qui sont en dehors du monde professionnel, des activités associatives, des activités sportives ou autres. Mais en France, on a cette idée traditionnellement qu'on va se réaliser et trouver son identité à travers sa profession en premier lieu. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas dérogé à la tradition et c'est là que j'ai cherché mon identité en quelque sorte première. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir chercheur, enseignant-chercheur en tout cas? J'ai essayé et puis j'ai vu que ça me plaisait, donc j'ai continué. Le moment vraiment où on essaye, quand on fait des études supérieures, c'est la thèse. En thèse, on a des questions à résoudre, on vous pose des questions, il faut essayer d'y répondre. D'habitude, on n'arrive pas à les résoudre, alors on trouve d'autres questions et celles-là, on arrive à les résoudre. C'est un phénomène assez courant. Et la thèse, c'est le moment vraiment où on s'immerge dans les habitudes du milieu. On voit ce que ça va être du point de vue de la géographie, quels lieux on visite, quelles habitudes de travail on a. On va apprendre la problématique de savoir écrire un article, de savoir dialoguer avec les gens, qu'est-ce qu'on attend d'une rencontre, qu'est-ce qu'on attend des autres quand on fait une présentation, tous les éléments qui plus tard vont être les éléments de votre quotidien de chercheur. Et avant de faire la thèse, on ne peut pas savoir, parce que c'est pas expliqué. Dans mon ouvrage, celui qui est là, c'est le premier, vous le trouverez en accès libre là ou dans l'exposition. Ça vous dispense de l'acheter si vous voulez regarder un peu de quoi il est question. Et je pense que c'est l'un des tout premiers qui évoque toutes les facettes de ce métier de chercheur. C'est pas spécialement ma vie qui est racontée là-dedans, c'est la vie de tous les chercheurs au sens où on voit tous les éléments qui rythment la vie des chercheurs. Et ça, c'est une vie, un genre de vie que si on n'a pas testé, on peut pas trop apprécier. On peut pas trop savoir de quoi il est question. Alors pourquoi les mathématiques plutôt qu'autre chose? Là vraiment, ça s'est fait comme ça. Je trouvais ça intéressant, alors j'ai continué et je me suis laissé porter. Il faut pas trop chercher à prévoir. L'idée c'est qu'il faut approfondir. Quand on est curieux, il faut chercher, approfondir encore davantage. Au moment de choisir ce qu'on va faire, il faut laisser un peu le hasard parler. En tout cas, c'est ma conviction.
Autre question?
Bonjour, je m'appelle Luc. Moi, je me demandais quel est le rôle de la créativité dans les recherches mathématiques que vous menez.
Alors, par définition, une recherche, c'est un travail de créateur. Et qu'on dit recherche, c'est la définition. Ça veut dire qu'on cherche quelque chose de nouveau. Donc, on est dans une démarche créative, et ça, c'est pas spécialement en mathématiques, c'est partout. En mathématiques, parmi toutes les sciences, c'est peut-être celle dans laquelle le rapport créativité sur expérience, c'est le plus important. C'est pour ça que les mathématiciens sont aptes plus tôt que les autres à être des chercheurs. Moi, j'ai été recruté enseignant-chercheur à 27 ans, donc professeur d'université. Mon patron de thèse était encore plus jeune. Et on était déjà opérationnel, quoi. Prêt à définir nous-mêmes nos sujets de recherche et ainsi de suite. Dans nos disciplines, il faut attendre un peu plus longtemps. Il y a d'autres avantages dans les autres disciplines en compensation. Il ne faut pas croire que la mathématique, ça soit celle qui est la plus agréable par tous les côtés. Par exemple, dans les disciplines expérimentales, on peut ressentir beaucoup de plaisir à être porté par les expériences ou à attendre le résultat des expériences et ainsi de suite. Mais ça demande beaucoup d'expérience et de doigté, justement, de savoir monter une expérience, comment la faire, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, et ainsi de suite. Donc le rôle de la créativité, il est fondamental, ça c'est vrai pour toutes les sciences, et en mathématiques, peut-être plutôt plus qu'ailleurs. Créativité, ténacité, rigueur, c'est les trois vertus du mathématicien, du chercheur en général, mais en mathématiques, elles sont dans cette ordre là, je dirais. Alors il faut après trouver le bon équilibre entre les différentes entre ces différentes qualités. Et ça implique bien sûr qu'il y a des fois où les travaux avancent sans que vous compreniez pourquoi. Là, vous avez une exposition qui vous parle de cerveau qui va être inaugurée demain juste à côté. Cerveau, comment ça fait pour rendre les conclusions? On ne sait pas trop. Et c'est là qu'on revient aux questions sur l'enseignement. Le but d'une éducation en mathématiques, ce n'est pas de vous apprendre des théorèmes mathématiques. Le but d'une éducation mathématique, c'est de vous apprendre à avoir des idées mathématiques. C'est de vous apprendre à savoir faire des raisonnements mathématiques. C'est de vous apprendre à savoir chercher des mathématiques. Hein ? Il faut vous former à la ténacité. C'est pour ça que c'est important que vous fassiez des exercices et que vous y passiez du temps, des heures éventuellement sur un seul exercice, juste pour s'entraîner à chercher. C'est important la créativité parce que c'est important de comprendre, de se poser la question, qu'est-ce que je vais utiliser ceci ou ceci? Ah, j'ai compris, c'est ça, et c'était pas indiqué, c'était pas une recette, mais j'ai eu l'idée, s'entraîner à avoir des idées. Et puis, c'est important d'être rigoureux, à apprendre à monter un raisonnement logique dans lequel les différents éléments s'écoulent. C'est à ça que ça sert un cours de mathématiques. Après, les théorèmes, on s'en fiche. Aucun théorème n'est important en soi. Ce qui est important, c'est savoir manier les théorèmes.
Je voulais vous demander, est-ce que quand vous faites vos recherches, vous savez déjà dans quelle direction vous allez aller? Ou vous faites ça un peu...
Parfois oui, parfois non. Déjà, souvent on ne sait pas au départ vers quelle direction on va chercher, puis on a plusieurs fers au feu, hein, on va bosser sur différents trucs à la fois, tantôt il y en a un qui avance. Mais tous mes gros résultats, je me suis mis à chercher dessus, genre un an avant de me mettre à travailler dessus, je ne savais même pas que le problème existait. Des fois, même moins que ça. Ça m'est arrivé, par exemple, mon article le plus cité, par exemple, il est venu parce que, suite à un concours de circonstances, je me suis retrouvé à lire un certain cours écrit par un probabiliste quelques semaines après avoir assisté à un exposé d'un jeune mathématicien allemand qui parlait d'un truc que je connaissais pas, et j'ai réussi à faire le lien entre les deux. J'ai compris en lisant le machin qu'il y avait un rapport avec l'autre bidule, ce que personne n'avait remarqué. De là est née rapidement une nouvelle démonstration d'un certain théorème basé sur les idées de l'autre gars, et ça a été la base d'un article que j'ai écrit en collaboration avec ce gars-là et qui a été le point de départ de beaucoup de choses. Mais genre, deux mois avant, je savais même pas. J'avais aucune notion ni du domaine que le gars explorait, ni de l'inégalité qu'on allait redémontrer. Donc souvent, on ne sait pas dans quelle direction on va être entraîné. Et puis même quand on sait qu'on veut travailler dans une certaine direction, souvent on ne sait pas quel est le problème qu'on veut montrer. Éventuellement, on ne sait pas quel est l'énoncé du théorème qu'on recherche. Ou éventuellement, on ne sait pas si la réponse est oui ou non. Alors des fois, c'est très drôle. On se dit là, machin, ça doit être faux. Alors vous cherchez à trouver un contre-exemple, puis vous n'en trouvez pas, en disant que ça doit être vrai. Alors vous cherchez à le démontrer, puis vous n'y arrivez pas. Non, ça doit être faux, et puis ainsi de suite. Et comme ça, vous allez osciller. Alors des fois, vous faites des expériences sur ordinateur pour vous convaincre si ça va être vrai ou faux. Des fois, vous demandez aux autres, qu'est-ce que tu penses, pour essayer de vous faire votre religion, et ainsi de suite. Mais souvent, on part dans l'inconnu. On part dans l'inconnu complet. Avec ce que ça a aussi, à la fois, mélange d'angoissant et de motivant, quoi.
C'est très bien décrit dans le bouquin.
Voilà, dans le bouquin, on est là. Ouais,
c'est pourtant vrai.
merci.
Non, mais c'est vrai. Les moments d'angoisse, là, de savoir effectivement, on va y arriver, on ne va pas y arriver, c'est très les mails entre son
élève.
C'était votre élève.
C'était mon élève. Ouais.
Et c'est très, très révélateur.
Non, d'abord, ça serait impensable parce qu'il y a tellement de beaux mondes au Portillon que la pression est assez importante. Ensuite, je suis déjà frappé par la limite d'âge. Hein. C'est strict la médaille Fields, c'est 40 ans au 1er janvier. Je l'ai eu, j'avais seulement 37 ans, mais c'était ma dernière chance. Hein. C'est très strict sur les questions d'âge.
Et c'est tous les 4 ans.
Et puis ensuite, ça n'aurait pas d'intérêt parce que déjà, quand je vois tout le boulot que c'est pour bien exploiter une médaille Fields, c'est un truc déjà. C'est bien l'exploiter, je veux dire, utiliser la mise sous projecteur que ça vous donne pour faire avancer des projets, que ce soit des projets de diffusion des sciences, des projets de type intégration entre différents acteurs de la société avec les sciences, des projets d'enseignement, des choses comme ça. Ça, c'est un véritable boulot, quoi. Et ça n'aurait pas d'intérêt, une récompense supplémentaire, je veux dire. De toute façon, quand vous avez la médaille, ça vous donne un tel coup de frein aux recherches qu'après, c'est plus espérable, je dirais, avant un certain temps, de revenir avec une contribution du même genre de niveau. D'habitude, les médaillés Fields attendent, il leur faut un certain temps avant de rebondir avec un résultat suffisamment fort, parce que ils sont soumis à une telle pression ils investissent tellement d'énergie dans des choses qui sont périscientifiques qu'ils n'ont plus le temps de mener des recherches du même niveau. Justement, je dirais, il y a toutes sortes de choses qu'on peut espérer. Donc personnellement, là, je suis sur un projet de rénovation, d'aménagement d'un institut, d'une branche, d'une annexe mathématique de mon institut Poincaré, l'institut parisien. Il s'agit de trouver les fonds pour la rénovation, par exemple. Il s'agit de faire le programme scientifique correspondant. Il s'agit de mettre en place une structure du type de celle-ci de vulgarisation des sciences. Il s'agit à la fin de réussir à convaincre des bailleurs de fonds de donner une somme qui doit au total être de l'ordre de 10 millions d'euros. Hein. Ça va être un de mes objectifs dans les années qui viennent. J'ai un projet politique, puisque je suis membre d'un think tank pro-européen qui vice-président de ce think tank avec un projet de faire avancer l'intégration européenne du point de vue de la culture, du point de vue scientifique, du point de vue institutionnel. Je suis dans un projet associatif aussi, dans lequel il s'agit de faire avancer un certain projet qui s'occupe d'intégration sociétale, de culture, de musique. Ça fait toutes sortes de projets dans lesquels il s'agit de convertir de la notoriété et de l'expérience en possibilité de faire avancer les projets. Et bon, si j'arrive à les faire mener tout ça bien, ce sera bien. Hein.
Autre question ?
Oui. Bonsoir, je m'appelle Henri. En tant qu'enseignant-chercheur, vous passez plus de temps à enseigner ou à chercher ?
D'habitude, Alors d'abord, c'est très variable selon les personnes. D'habitude, la recherche est plus consommatrice de temps. Mais c'est variable, ça dépend aussi des périodes. En ce moment, du fait que j'ai très peu de temps et que les cours demandent un temps incompressible, je passe nettement plus de temps à enseigner ou à préparer mes cours qu'à faire de la recherche. À d'autres époques, c'était beaucoup plus de temps sur la recherche que sur l'enseignement. Pour la période qui est décrite sur l'ouvrage, c'est beaucoup plus de temps sur la recherche enseignement, avec une nuance. Alors attention, une nuance. Quand je dis enseignement, là, j'entends enseignement en milieu universitaire pour des élèves de licence, de master. Il y a aussi toute une problématique qui est l'enseignement pour des chercheurs. Là, j'en ai fait beaucoup, des mini-cours, je rédige des cours, j'ai rédigé des ouvrages dont on peut considérer que ce sont des cours et un côté enseignement.
Après, on peut aussi répondre que la limite parfois est floue. Et que quand on prépare un cours de niveau recherche, c'est une autre façon de faire de la recherche finalement. On peut pas, quand les choses se goupillent bien, il n'y a pas de cloisonnement entre les deux activités. Et elles se nourrissent l'une l'autre.
Oui, il y a une question là-bas.
Comment est-ce que vous recherchez, c'est-à-dire un chercheur en maths, comment est-ce que vous mettez en face une feuille blanche et vous réfléchissez pendant des heures, enfin, comment vous fonctionnez, comment...
Toutes les combinaisons existent et ça dépend des gens, ça dépend des habitudes. Moi, j'aime bien griffonner sur une... Pour moi, ça commence avec des griffonnages sur des feuilles de papier, un peu dans ce genre-là, voilà. Moi, je griffonne, et puis jusqu'à ce que quelque chose se dégage, essaie de se dégager... Puis je griffonne des trucs un peu plus précis, puis petit à petit j'essaie de construire. Il y a beaucoup de phases d'échange. Il y a parfois des moments où on réfléchit dans sa tête, comme ça. On apprend d'ailleurs à développer toutes sortes de procédures pour répondre en mode automatique aux autres sollicitations. Il y a des gens qui vous parlent et tout, vous faites oui, et puis vous réfléchissez pendant ce temps. Et vous êtes dans des réunions, par exemple, et puis vous apprenez à hocher la tête tout en réfléchissant à votre problème, en mode semi-automatique. Tout ça, ça participe, il y a toutes sortes de situations différentes. Et puis des fois, vous serez dans des colloques, vous discuterez avec les gens, alors la réflexion à plusieurs, c'est un élément fondamental. Alors là encore, toutes les situations sont décrites dans mon ouvrage. Ça passe par toutes sortes de stades. Des fois collectif, des fois seul, des fois en échange avec une relation privilégiée.
D'autres questions ?
Les chercheurs, ils collaborent ensemble, enfin ils échangent leurs idées ou ils les protègent à l'inverse ?
Ils font les deux. Ça dépend. Des domaines dans lesquels la protection des idées est plus sensible que d'autres. Et puis toujours, s'ils veulent exploiter une idée, ils la gardent un peu pour eux, ou ils donnent seulement les grandes lignes, et puis des fois, ils communiquent. On trouve toutes les nuances, tous les styles. Il y a une seule règle de base dans la déontologie scientifique, c'est qu'une fois qu'on publie quelque chose, qu'on rend public un raisonnement ou un résultat, on expose toutes les idées qui ont permis d'arriver à ce résultat. En tout cas, on ne cache rien de ces résultats, normalement. On donne tous les éléments aux autres pour qu'ils puissent les reproduire, pour qu'ils puissent les comprendre. Normalement, c'est ça la base de la démarche scientifique. L'une des bases, c'est le partage sincère et complet des données et des conclusions. Mais tant que ce n'est pas publié, on a le droit de garder les choses pour soi. Des exemples célèbres de gens qui racontent pas comment, qui disent pas qu'ils travaillent sur tel problème. Par exemple, Wiles, quand il a travaillé sur le théorème de Fermat, il l'a dit à personne. Ou Perelman, quand il travaillait sur le théorème de Poincaré, la conjecture de Poincaré, ça c'est les deux plus grandes épopées mathématiques, si on peut dire, des dernières décennies, où vous voyez un chercheur qui arrive à démontrer un problème ouvert, un théorème qui était connu comme l'un des problèmes identifiés les plus célèbres du monde, au terme de plusieurs années de réflexion et de travail. Et là, dans un cas comme dans l'autre, ça avait été tenu secret. Vous avez aussi, à l'inverse, des gens qui annoncent dès le départ qu'ils vont travailler sur tel problème. Comme là, parmi mes héros, je parlais de Nash tout à l'heure. À un moment, je fais cours d'ailleurs en ce moment à l'université là-dessus, un résultat qu'on appelle les plongements isométriques, qui montrent que n'importe quelle géométrie non euclidienne, abstraite, une géométrie qui n'est pas plane ou droite, on peut la réaliser comme une sous-géométrie de la géométrie droite, genre comme une surface dans l'espace à trois dimensions ou quelque chose de plus général. Donc ce théorème, il a annoncé dès le début, je vais travailler là-dessus, je vais réussir, je suis le plus fort. Et les autres, ils ont échoué, mais moi, j'ai une intuition forte et tout, il était très frimeur. Et il a annoncé dès le début qu'il allait travailler là-dessus, et puis il est arrivé. On trouve un peu tous les styles. Après, les attitudes sont plus ou moins protectrices en fonction des personnes et en fonction des domaines. Également sur les méthodes. Par exemple, Newton, dans son grand œuvre, Les Principia Mathematica, dans lesquels il développe l'idée selon laquelle on peut prédire des problèmes, des résultats d'expériences physiques en résolvant des équations différentielles, eh ben, Newton, il met un point d'honneur à ne pas dévoiler les vraies méthodes avec lesquelles il arrive à ses conclusions. Hein, il développe le calcul différentiel, qui est une arme extraordinaire pour obtenir les conclusions, mais après, il démontre tout avec des méthodes de géométrie classique, comme s'il cachait un peu ses méthodes heuristiques. C'est limite, ça, en termes de déontologie. C'est limite, parce qu'il ne montre pas comment il arrive au résultat et à l'intuition. Et puis, dans d'autres sciences, dans d'autres contextes, vous avez des fois des problématiques importantes qui arrivent avec des sommes importantes en jeu, avec une démarche beaucoup plus entrepreneuriale. Et là, c'est normal qu'il y ait une question de protection qui se présente. Genre, si vous dirigez un laboratoire de biologie, si votre découverte peut mener à des brevets qui vont faire vivre votre laboratoire, qui font faire vivre les employés du laboratoire, ben, il est normal que vous preniez beaucoup plus de précautions sur la protection de la démarche que si vous êtes dans un institut de mathématiques où les enjeux financiers sont bien moindres. Si vous êtes dans un domaine de recherche industrielle, recherche et développement pour une entreprise, là, ça va être encore plus important, ces problématiques. Si jamais il y a une fuite sur une technique que vous êtes en train de mettre au point qui va arriver chez votre concurrent et que le concurrent fait un développement sur ses produits qui lui permet de vous mettre en faillite, c'est un problème. Donc il y a une responsabilité vis-à-vis des personnes qui sont dans le projet, s'il y a des enjeux financiers importants pour la survie du projet, qui entraînent un devoir de secret plus important. À la fin des fins, modulo ces aspects financiers, on considère qu'il est normal de partager autant que possible les idées. Disons, on partage les idées le plus possible tant qu'il n'y a pas de répercussions néfastes possibles par rapport à votre projet ou votre entreprise. Et en particulier, on considère comme normal de rendre public tous les articles, de rendre public même les pré-publications, avant même qu'il y ait publication et qu'il soit protégé par la publication dans une revue. Dans beaucoup de milieux, on considère comme normal de rendre public ces pré-publications en faisant confiance à l'honnêteté d'ensemble du système pour ne pas dérober ces idées pré-publiées.
Moi, je me demandais, est-ce que c'était important pour vous que la recherche mathématique ait des liens avec la réalité, ou est-ce que, même si c'est abstrait, ça vous semble quand même intéressant?
Pour moi, c'est important. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour moi, c'est important. Je trouve que, d'abord, ça s'inscrit dans une histoire et une tradition. La mathématique, au départ, c'est une technologie qui a été inventée pour résoudre des problèmes, y compris des problèmes concrets, pratiques. Et ensuite, je trouve que c'est justement dans cette alliance d'abstrait et de concret, on a quelque chose de très beau. Les problèmes sont beaucoup plus beaux comme ça. Hein, des problèmes pratiques. Il n'y a pas longtemps, il y a un lecteur qui m'écrivait pour me dire comment un jour il accompagnait il a fait des études, et un jour il aidait son père sur un chantier. Son père était maçon, sans éducation particulière et tout ça, il travaille sur le chantier. À un moment, il voit son père qui prend son décimètre, qui sur un coin se met à mesurer 30 cm ici, 40 cm là. Il reporte les points et vérifie qu'il y a 50 cm entre les deux points. Ah, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Oui, je vérifie que l'angle est droit. Oui, mais là, tu es en train d'appliquer le théorème de Pythagore. Ah bon? On ne le connaît pas. Donc, il était en train d'appliquer le théorème de Pythagore, bien sûr. C'était au départ, c'était utilisé pour des choses concrètes comme ça. Vous voulez vérifier un angle droit, comment vous faites pour vérifier qu'un angle est droit? Eh bien, c'est vraiment comme ça que vous faisiez. Si vous étiez maçon, vous mesurez 30 cm, 40 cm, vous vérifiez que la distance entre les deux points correspondants, c'est 50 cm, et là, vous savez que l'angle est droit. Voilà, après, c'est des exemples beaucoup plus compliqués. Moi, j'ai bossé sur des exemples de la physique des gaz, physique des plasmas, beaucoup de physique statistique. Et les trois quarts de mes théorèmes, ils sont liés à des problèmes physiques. Je ne dis pas qu'ils ont des applications physiques, mais ils sont liés et inspirés de problèmes physiques plus ou moins concrets.
Est-ce lié au fait que vous êtes directeur de l'Institut Poincaré ?
Non, c'est pas...
Non, parce que là, peut-être préciser ce que c'est que l'Institut Poincaré.
Oui, l'Institut Poincaré est une sorte d'hôtel à mathématiciens dans lequel on accueille des chercheurs invités par centaines tous les ans sur toutes sortes de thématiques, avec des thématiques qui changent tous les trimestres. Et puis on accueille aussi des colloques, on accueille aussi des cours, on accueille des séminaires. C'est une maison pour toutes sortes de mathématiques. Et ça n'emploie pas de chercheurs permanents, à part le directeur et son adjoint. Ça traite de toutes les branches mathématiques et physique théorique. On a même des bureaux en accès libre pour les mathématiciens de passage. Et bon, donc il s'agit de traiter de tout, comme Poincaré faisait.
Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des mathématiques en distinguant deux points importants, donc l'enseignement et la recherche, en expliquant qu'ils étaient liés. Et dans votre vie de mathématicien-chercheur, donc est-ce que vous estimez que c'est cette évolution en fait, du chercheur à l'enseignant, aujourd'hui, est-ce que ça vous intéresse d'être un mentor et d'emmener d'autres nouveaux mathématiciens plus jeunes, on va dire, vers des recherches? Est-ce que c'est vraiment l'évolution? Est-ce que vous le vivez
Oui, depuis... Oui, mais ça, c'est une question... C'est une question personnelle, c'est un rapport avec la notion de transmission et j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc dès que je suis devenu enseignant-chercheur, donc dès que j'étais habilité à encadrer des thèses, j'ai commencé à encadrer des thèses, par exemple. Et puis tout le temps, faire des cours, rédiger des cours. D'abord, les gens que vous formez, après ça devient vos alliés, hein. On le voit dans l'ouvrage, hein, Clément. C'était mon élève, c'était mon premier élève, et puis après ça devient mon partenaire sans lequel il serait impensable que je mène à bout la recherche qui est en cours. Et puis ensuite, parce que dans mon cas en tout cas, mais c'est le cas pour beaucoup de gens, enseigner et transmettre, c'est la meilleure façon de comprendre et de maîtriser la chose en elle-même. Il ne faut pas croire qu'on commence par comprendre et ensuite on enseigne. Souvent c'est en enseignant qu'on comprend. Alors pour d'autres, ce n'est pas spécialement important. Prenez un gars comme Poincaré, il n'a quasiment pas eu d'élèves au sens habituel du terme. Il a fait des écrits extrêmement inspirants, mais ce n'était pas un enseignant dans l'âme. Alors que des fois, vous en avez qui ont des étudiants, mais tant, des dizaines.
Moi, j'avais une autre question. C'était, par exemple, plusieurs mathématiciens comme Descartes, Bergson, Pascal sont devenus plus tard philosophes. Est-ce que vous pensez que la démarche mathématique est aussi une démarche philosophique?
Oui, on pourrait ajouter Wittgenstein parmi les cas les plus... parmi les cas un peu extrêmes. Est-ce que la démarche mathématique...
est aussi une démarche philosophique, une démarche philosophique. Est-ce que les deux sont liés?
Oui, il y a eu une époque où on... Il y a eu une époque où les deux étaient intimement liés, hein, on considérait... l'un comme un moyen d'aller à l'autre, même pour des philosophes qui ne sont pas spécialement scientifiques dans l'âme. Hein, Platon, il y a des endroits dans lesquels il va de son couplet sur les sciences et il en parle, et pour lui c'est important, ou des choses comme ça. Ce qu'il a écrit sur le sujet me semble un peu monstrueux, mais c'était important pour lui. Et pendant très très longtemps, on n'envisageait pas une réflexion philosophique dans laquelle il n'y ait pas, qu'il ne soit pas étayé par des choses mathématiques. Alors après, c'est passé de manière assez importante même. Vous en trouvez encore dans certains philosophes récents. Henri Poincaré, là encore, est un exemple. Bergson est un exemple. D'ailleurs, Bergson, à un moment, s'est mêlé d'une querelle concernant la relativité. Comme autre exemple, vous avez Simone Veil, qui avait un frère qui était l'un des grands mathématiciens du siècle, et qui ensuite, quand on regarde dans le texte, on voit à quel point c'était important pour elle, sans arrêt, des réflexions mathématiques pour étayer ses réflexions et ses recherches. Il y a bien sûr une démarche commune. En mathématiques, on cherche à comprendre des choses fondamentales, des choses qui sous-tendent tout le reste, des choses qui irriguent tous les champs de la connaissance, on va dire, que vous cherchez à travailler directement sur le raisonnement. La
pendant un moment, on employait le mot philosophe en partie, ça voulait dire scientifique. Encore maintenant, quand vous avez votre thèse dans le système anglo-saxon, on parle de PhD, ou PH, c'est pour philosophie. Hein, donc il y a clairement une démarche concourante. Il y a une démarche concourrente. Mathématiques, parmi les sciences, c'est celle dans laquelle on est le plus absolu, le plus abstrait, on cherche plus à aller dans les fondements. C'est la plus proche de la philosophie.
Bonjour, Jean-Marc Fronty, prof de maths. Dans vos recherches, vous, de manière quotidienne, vous travaillez surtout papier-crayon ou vous utilisez également les ordinateurs, je ne parle pas pour les traitements texte, hein, mais des logiciels, des algorithmiques, dans la recherche en mathématiques en général, est-ce que vous pouvez
nous parler de ça ? Chacun a son style, effectivement. Moi, c'est surtout papier-crayon, mais ça m'arrive de rechercher une expertise du côté de l'ordinateur, du côté de la simulation, et là, en général, je fais appel à des professionnels de la simulation. Telle équation, fais le calcul, dis-moi ce que ça donne, et ainsi de suite. Il y a une sorte de dialogue. C'est tout un métier, à un moment, de savoir comment... savoir comment il faut résoudre telle et telle chose. Il ne faut pas croire qu'on puisse résoudre des équations un peu complexes avec un ordinateur sans comprendre les équations. Il y a tel type d'équation, on va chercher tel code, et puis encore, si on veut voir telle chose dans telle équation, ça va être plutôt telle méthode, dans d'autres cas plutôt telle méthode, et ainsi de suite, pour des équations un peu complexes. Bon, pour moi, c'est surtout du papier crayon au quotidien.
Y a-t-il d'autres questions ? Oui, mademoiselle.
Bonsoir, je m'appelle Elodie Andreau. Quelle est la recherche dont vous êtes le plus fier ?
L'amortissement Lando, celui que j'ai décrit dans le bouquin, ça c'était vraiment quelque chose. Hein. Il y a vraiment eu un monstre à combattre, un géant à combattre. Après, le résultat, il est tout petit, toujours comme ça. Quand on veut faire quand on s'attaque à des problèmes difficiles, on démontre un tout petit truc. Mais quand même, la fierté se mesure aux difficultés que vous avez eu à surmonter. Donc ça j'en suis assez fier. Et puis il y a certains résultats sur l'étude de la production de désordre dans les équations des gaz, où là vraiment j'ai mis le doigt sur un truc très élégant. Dans la plupart des cas, ce dont je suis fier, c'est les résultats dans lesquels j'ai réussi à extraire une idée du milieu environnant, on va dire. Souvent, c'est avec une personne et une autre. Et puis comprendre que machin et bidule, en mettant ensemble les trucs, on arrive à faire ceci. Et en particulier, c'est presque tous des travaux en collaboration, en tout cas qui sont commencés par une collaboration.
D'autres questions ? Non ? En tant que chercheur, donc, c'est pour quand même qui voit un petit peu mieux le métier de chercheur. En tant que chercheur, donc, vous êtes amené, vous le décrivez ici, vous avez passé quelques années à l'étranger à enseigner, donc en particulier aux États-Unis, etc.
J'ai enseigné un semestre à Atlanta. J'ai enseigné ici et là des cours de plus courte durée, eh bien, un semestre complet à Atlanta. C'était ma plus importante expérience de cours à l'étranger. Les autres expériences à l'étranger, c'était plutôt des mini-cours ou des cours restreints.
Mais ce sont des invitations, comment ça fonctionne ?
Oui, chercheur invité, typiquement, quand vous êtes chaque université ou établissement d'enseignement supérieur a des postes réservés pour des enseignants invités qui, pendant une période de temps qui peut aller jusqu'à l'année complète, rarement plus en mathématiques, vont être invités à enseigner un cours au sein de l'établissement. Et ça joue un rôle considérable de brassage des idées, ce genre de pratique.
Oui, c'est écrit pas mal. Oui, c'est assez intéressant de voir. Enfin, je leur dis que ce que vous avez dit par rapport aux rencontres, etc., de voir que des gens qui apparemment travaillent sur des sujets complètement différents, comment ça peut refaire redémarrer une recherche à un moment donné, c'était bloqué, et puis bon, ça va repartir.
Oui, oui, ça. Et puis mettre en forme le truc, comme je disais, enseigner, ça permet de comprendre. Hein, si vous. Il n'y a rien de tel que d'expliquer un truc à votre petite sœur ou petit frère pour le comprendre.
Et oui, vas-y, Rudis.
Vous avez dit que pour être un bon chercheur mathématicien, on avait besoin de ténacité, créativité, rigueur. Et c'est quoi les caractéristiques qu'il ne faudrait pas avoir, justement ? Enfin, pour un chercheur.
Ah. Qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir ? Il y a un équilibre à trouver quand vous êtes chercheur. Hein, pour être un bon chercheur, il faut être impliqué. Il faut se sentir qu'on a un intérêt vital à résoudre ses résultats. Mais en même temps, la plupart du temps, on échoue, quoi. Donc, quelqu'un qui... Que l'idée d'échec... Quelqu'un qui est incapable d'échouer, quelqu'un qui l'idée d'échec rend malade, ne peut pas être chercheur. Quelqu'un qui a besoin de tout savoir, ne peut pas être chercheur. Quelqu'un qui a besoin de prédire les choses longtemps à l'avance, ne peut pas, si c'est trop longtemps à l'avance. Il faut accepter à ce que les questions le plus souvent restent sans réponse, à ce qu'on échoue le plus souvent. Il faut aussi avoir une implication dans le résultat, mais pas trop forte. Sinon, ça vous tape sur le système d'échouer. Quand on est, disons, si vous êtes chercheur et que 10% de vos idées marchent, on considérera ça comme un résultat exceptionnel. C'est beaucoup moins, normalement. C'est beaucoup moins que ça. D'ailleurs, c'est vrai aussi dans le domaine de la recherche industrielle. Il n'y a qu'un très petit nombre des idées dans un département de recherche et développement qui vont aboutir à quelque chose de viable. Donc, si quelqu'un qui serait ultra perfectionniste et qui aurait besoin de réussir tout ce qu'il fait pourrait avoir un problème important là-dedans. Alors, on peut aussi... avoir bien intégré ça et être conscient que dans cette dimension de recherche, il y a beaucoup de choses qui sont des... On rencontre souvent l'échec. Ça, c'est ce qui me vient à l'esprit en priorité. Et puis, si vous êtes trop perfectionniste à vouloir raffiner tous les détails et tout ça, c'est pas bon non plus. En recherche, il faut arriver à explorer un truc bien... à fond et puis savoir changer après, sans terminer d'explorer les micro-détails, laisser à d'autres éventuellement le soin de faire les choses. Il faut être capable de bouger régulièrement.
Oui, une autre question.
Moi, je voulais savoir, en fait, si vous aviez eu d'autres recherches, non pas en mathématiques, ou d'autres passe-temps qui vous ont permis d'équilibrer, parce que j'ai du mal à imaginer une vie uniquement faite de recherche. Vous avez dit que vous étiez passionné de musique aussi. Est-ce qu'en fait, vous avez des temps partagés, enfin, c'est une question personnelle, je suis désolé, mais est-ce que votre vie, elle est rythmée avec recherche, musique et autres...
Alors, dans le temps, je faisais à peu près une heure de piano par jour. Bien par jour. J'ai arrêté ça quand je suis devenu papa. Hein. Ça, c'est une occupation quasiment à plein temps extra-professionnel d'être parent. Bon,
mais c'était une heure par jour. Il y a eu une époque, pas quand j'avais votre âge, mais plus tard, genre quand j'avais 22 ans ou quelque chose comme ça, il y a 22, 23 ans, il y a une autre époque où en gros j'allais au cinéma tous les jours. Soit au cinéma, soit au concert, chaque jour. Bon, il y a des époques où c'était ça. Il y a eu une époque, quand j'étais étudiant à l'ENS, où j'allais en cours une fois par semaine pour aller au cours de mathématiques et musique, et le reste du temps, j'écoutais de la musique en fabriquant des anagrammes. Vous avez, quand vous passez par différents stades, différentes époques, et puis il y a des moments où vous vous mettez à fond dans un truc. Et puis, il y a des périodes pendant lesquelles je bossais non-stop, du matin au soir, sur un projet mathématique. Et il y a des gens qui ont besoin de faire un équilibre sur une journée, qu'il faut que dans une journée, ils voient d'autres choses. Il y a des gens qui satisfont très bien de faire ça par période, et qui vont avoir une période focalisée ceci, une période focalisée cela, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Écrire un bouquin, c'est un autre truc. Hein. Ouah, j'en ai écrit 3 des bouquins. 2 bouquins mathématiques spécialisés, un bouquin grand public qui est celui-là, à chaque fois, c'est un projet qui s'étale, en tout cas les 2 bouquins mathématiques, c'est des projets qui se sont étalés sur 3 ans. Et il y a eu avec aussi des phases pendant lesquelles j'étais obnubilé par mon bouquin littéralement du matin au soir. Hein, vous levez le matin, vous pensez à votre livre et tout ça, toute la journée, vous mangez en lisant en corrigeant les trucs, puis vous continuez, puis éventuellement jusqu'au coucher. Alors peut-être vous regardez un petit DVD juste avant de vous coucher, puis vous rêvez de votre livre, et puis après le lendemain et tout ça. Donc il y a des périodes aussi où ça passe. C'est quelque chose qui, je pense, ne pose aucun souci quand c'est sur des projets assez ponctuels. De la même façon que, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça m'est arrivé de voir de près un tournage de film, c'est invraisemblable l'engagement que ça représente de la part du directeur, du cinéaste qui fait ça. C'est du matin au soir, il pense qu'à son film. Hein. Le matin, il se lève, il faut préparer la scène, voir le truc. Tout l'après-midi, la scène est tournée. Le soir, on pense au truc du lendemain et tout ça. Impossible de lui parler ou quoi que ce soit. Bon, et dans beaucoup de métiers liés à la création, ça va être un peu pareil parfois. Voilà. Alors, sinon, mais comme tout le monde, j'ai fait un peu de sport dans le temps. Quand j'avais votre âge, c'était le ping-pong. J'ai fait de la compétition en ping-pong. Comme beaucoup de gens, c'était de la musique. Je vous dis, j'ai fait une quinzaine d'années de piano. Et à certaines époques, c'était une heure par jour, tous les jours. Et puis, beaucoup de marche à pied quand il y avait l'occasion, un peu comme tout le monde. Actuellement, j'en fais plus. J'ai plus de musique, j'en écoute beaucoup, mais j'en fais plus, parce que plus le temps. Plus de sport non plus, parce que plus le temps. Mais je cours partout, à droite, à gauche, pour faire avancer mes projets, pour faire des conférences, pour faire des machins, là. Ça occupe aussi, hein. Voilà. Cette semaine, je dois être à Poitiers, à Lyon, à Paris, à Genève. Voilà, c'est sur les 4 sites. Il y a un enregistrement avec une télévision allemande, il y a une interview avec un journal allemand, il y a une conférence autour de mon bouquin à Genève, il y a la conférence ce soir, il y a des réunions préparatoires pour des manifestations européennes. Bon, il y a de quoi s'occuper, hein. Voilà.
On va être obligé.
Il y a mes cours, bien sûr.
On va être obligé d'arrêter. Alors, je voudrais vous signaler quand même que si vous appréciez Cédric Villani, vous pouvez le retrouver d'abord dans ses rubriques à la radio, France Info. Il intervient de temps en temps aussi sur France Inter, dans La Tête au Carré, particulier. Donc, mais c'est pas facile pour vous de l'écouter puisque c'est à 14 heures. Donc, c'est pas très facile. Évidemment, le week-end, vous pouvez lire Le Monde quand même, puisque dans le monde de la science, monde science, là, donc il y a une rubrique, et puis vous avez aussi, puisqu'on a parlé de vulgarisation, donc puisque Cédric Villani a fait la préface de ses publications Le Monde et Mathématiques, donc vous avez un premier numéro qui est sorti sur le nombre d'or, un deuxième numéro qui vient de sortir sur la cryptographie, et puis je vous conseille aussi quand même ces énigmes vidéo, donc du Monde, c'est quand même très très amusant, et donc c'est bien quand même qu'il y ait des énigmes posées par vidéo, Donc, M. Villani est au tableau et vous pose son énigme. Donc, si vous voulez les adresses, on pourra peut-être les faire mettre, Julien, là, on pourra peut-être les faire mettre sur le site de l'IREM, tous ces liens. Ce serait possible.
Bon. Ouais, j'en ai fait que deux. Après, je passe la main. Il y a un pool de mathématiciens qui poseront des petites énigmes ici et là. Mais il y a un côté ludique en mathématiques, hein, comme en sciences d'ailleurs, avec aussi un côté jeu collectif, bien sûr.
Il me semble avoir aperçu aussi un blog, non ?
Ah oui, j'ai un blog, bien sûr.
Un blog, donc vous pouvez suivre son blog et son dernier voyage en Afrique.
Donc, j'ai une dernière question. Ouais. Donc, je trouve que c'est assez dommage de ne pas réussir à comprendre de grandes découvertes mathématiques comme certains théorèmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut plus avoir de connaissances mathématiques ou...
Je pense que ce n'est pas propre à la mathématique. Je pense que dans tous les domaines, on comprend plus ou moins. Et comprendre en détail, c'est jamais facile. Vous avez compris le boson de Higgs ? Hein ? Vous avez les résultats de Planck, là, les derniers résultats, vous avez compris ? Les nouveaux préludes au vaccin concernant le sida, vous avez compris sur quel principe ça fonctionne. On pourrait passer les trucs en revue, hein, sur toutes les grandes découvertes scientifiques actuelles, vous n'avez pas vraiment compris, moi non plus, hein. Moi je suis incapable de vous dire vraiment le boson de Higgs, qu'est-ce que c'est. Il faut d'abord que je passe du temps à potasser le modèle standard, les questions de symétrie, les machins comme ça. Quand on comprend, c'est toujours de manière approximative, plus ou moins éloigné en fonction de sa communauté. Et en mathématiques, c'est comme ailleurs, ça ne fait pas exception. Et quand on dit « j'ai compris », le sens est très différent entre le spécialiste qui a vraiment compris les détails profonds et le non-spécialiste pour qui il s'agit juste de comprendre de quoi il est question vaguement et comprendre comment ça s'inscrit par rapport aux autres projets. C'est une démarche comme ça et c'est une démarche normale et naturelle dans un monde où le progrès repose en grande partie sur les spécialistes quels qu'ils soient, et où le problème est de comprendre sur quoi travaillent ces spécialistes sans forcément chercher à comprendre le détail de leurs résultats, en faisant confiance à la communauté qui les entoure pour valider ces résultats et cette découverte et cette démarche. Voilà. Donc en ce sens, c'est pas dommage. Mathématiques, c'est pas plus un problème que d'autres domaines scientifiques.
Moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça représente, votre araignée que vous portez sur vous.
Ah, ça, question classique.
Une grave question, très importante, et à laquelle nous allons chercher, je vous engage à chercher la réponse tous ensemble, comme l'énigme du jour. Voilà.
Dernière chose, parce qu'il faut qu'on arrête, aux enseignants, là, je dis que dans le bulletin vert, il y a la conférence que Cédric Villani a fait aux journées nationales de la PMEP, donc sur la meilleure et la pire des erreurs de Poincaré. Donc le compte-rendu de sa conférence figure dans le dernier bulletin de la PM. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et puis ceux qui le souhaitent peuvent assister à sa conférence, là, à 8h30, un petit peu plus haut, là, à la Maison du Peuple. Donc les élèves sont invités, si évidemment ils peuvent rentrer chez eux dans de bonnes conditions.
Ouais, on parlera de mathématiques et l'âge de la Terre.
Merci.